France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Juste au départ, nous ne pouvions passer à côté de cette nouvelle, puisqu'en Pologne vient de naître le premier couscous en captivité. Voilà. Alors voilà, c'est au zoo de Wrocław. C'est une bonne nouvelle, car il n'y a que 6 couscous en Europe. Alors, le couscous, c'est un marsupial, en fait, indonésien, qui porte donc ce nom, hein, même si ses soigneurs ne lui ont pas encore trouvé de patronyme. Il paraît qu'ils hésiteraient entre Royal et Boulette, donc Dame Nature et Gourmand, donc on attend de voir. Et eux, ils ont été sélectionnés ce soir par le cadre de l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Jadzad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du Parlement des étudiants, également Christophe Alix, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Libération, Albert Zemmour, bonsoir.
Bonsoir.
Du Figaro. Et Aurélie Trouvé, bonsoir.
Bonsoir.
D'Attaque France. Et ce soir, on parlera des fake news, puisque la loi arrive bientôt. Mais au fait, que devient Laurent Wauquiez? Et puis les entreprises françaises dans les mâchoires du géant américain. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Eh bien, ça y est, voilà, cet après-midi, le Sénat a donc voté le projet de loi relatif à la SNCF, 240 voix pour, 85 contre. Mais comme les sénateurs tiennent à leurs vacances d'été et qu'ils ne veulent pas se retrouver en carafe avec leurs épuisettes sur un quai de gare, ils ont donné quelques gages aux syndicats, et notamment l'incessibilité du capital public des entités SNCF, SNCF Réseau Rail et SNCF Mobilité, afin d'écarter l'idée d'une privatisation. Cette adoption au Sénat ne signifie pas pour autant la fin de la grogne sociale. Pour regonfler le taux de grévistes, alors que la mobilisation s'est effritée au fil des épisodes, l'intersyndicale a décidé de rejouer la carte d'un nouveau temps fort unitaire. Après sa journée dite sans cheminots, c'était le 14 mai qui avait enregistré un rebond, l'intersyndicale a prévu le 12 juin donc une journée, je cite, de la colère cheminote. Le texte fera l'objet la veille d'une commission mixte paritaire. Alors ça, c'est l'Assemblée et le Sénat qui sont chargés ensemble de trouver un texte commun. C'est bien fait tout de même, mais en tout cas loin d'être fini au niveau de la colère. Selon Damien Aubert, il est de la CFDT Cheminots.
Le pacte ferroviaire d'entreprise avec la SNCF et que nous sommes simplement à la fin d'une première étape et que pour nous, il n'est pas question de reprendre sans connaître et avoir des engagements sur le contenu des négociations qui concernent l'UTP et la SNCF. Je ne sais pas quel ton a CGT et Sudrail. Il est clair qu'aujourd'hui, nous sommes très déterminés et que l'heure n'est pas la sortie du conflit compte tenu des incertitudes liées à la suite des négociations.
Voilà, Didier Aubert, donc de la CFDT Cheminots, c'était sur BFM, Jadzab. Donc les syndicats ne lâchent rien. Donc pour l'instant, ce n'est pas la fin du conflit.
Non, j'ai pas l'impression qu'on aille vers la fin du conflit, mais ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on vient de voir sur ce représentant de la CFDT, c'est que les syndicats sont divisés, l'ont toujours été. La CFDT a traditionnellement été, depuis le début, plutôt accueilli de manière favorable la réforme, bien qu'il n'y ait pas...
Ah, alors au début, il y avait quand même un front unitaire.
Bien sûr, il y avait un front unitaire, mais ce qui est original, c'est qu'il y a quelques jours, Laurent Berger disait, puisque c'est en ce moment le congrès de la CFDT, on sentait de manière très directe qu'ils avaient à l'égard du gouvernement et d'Emmanuel Macron un sentiment, à mon avis, pas très amical. Et aujourd'hui, on apprend qu'après cette version qui a été adoptée par le Sénat, possiblement, l'UNSA et la CFDT hésitent possiblement à arrêter le conflit. Donc, même les syndicats sont un peu déstabilisés par la façon dont ça s'est passé. Et puis, il y a un chiffre qui m'a interpellé dans le JDD ce dimanche sur le fait que, je crois, 64% des Français souhaitent que le gouvernement poursuive. C'est un chiffre qui est relativement stable depuis quelques semaines. Donc, j'ai l'impression que la mobilisation s'essouffle et qu'on est cette commission mixte paritaire qui en soi est un procédé très classique dans le processus législatif. Voilà, en fait, ils essayent d'en faire un élément susceptible de relancer la mobilisation. Je suis pas certain que ça fonctionnera.
Ouais, Christophe Alix, est-ce que ce sont quand même ces gages donnés? Là, on l'a vu quand même la CFDT Cheminots qui compte tout de même continuer cette mobilisation sociale. Ce n'est pas suffisant, disent-ils. Et pourtant, on pensait justement qu'avec ces gages-là, CFDT UNSA, ça pourrait arriver. Qu'une partie des syndicats pourrait dire on arrête aujourd'hui la grève.
Oui, mais enfin, les gages qui sont donnés, que le capital de la SNCF et de ses entités sera incessible, c'est ce qu'a dit le gouvernement depuis le départ. Le gouvernement n'a jamais dit qu'il y aurait la moindre privatisation de la SNCF.
Donc c'est à la marge, en fait, c'est ça?
C'est à la marge. Le fond quand même, le fond du dossier, la fin du statut de cheminot, l'ouverture à la concurrence, voilà, les données de les lignes de force du projet sont maintenues. Et alors, pourquoi est-ce que le conflit aussi semble s'essouffler depuis un certain temps, outre les divisions des syndicats? C'est parce qu'on voit bien qu'il ne trouve pas, ni dans l'opinion publique, ni même par rapport au taux de grévistes à la SNCF, l'ampleur que la SNCF, que les syndicats voudraient lui donner. Et puis d'autre part, ce principe des grèves tournantes, roulantes, perlées, bah, finalement, les gens s'y sont petit peu habitués. Et donc, la stratégie syndicale qui a été choisie et qui était celle de ne pas bloquer les transports en continu, n'a, semble-t-il, en tout cas comme moyen de pression, pas forcément été la meilleure idée des syndicats.
Aurélie Trouvé.
Oui, alors quand même Emmanuel Macron a au contraire réussi à avec sa, je veux dire, son style de gouvernement très autoritaire, très rigide, ils ont quasiment rien changé depuis le début de leur proposition. Au contraire, ils ont réussi à se prendre l'opposition de tous les grands syndicats ferroviaires avec une unité intersyndicale qui ne s'était pas vue au contraire depuis longtemps. Et ce soir, pour l'instant, il est question de poursuivre la grève avec l'ensemble des forces syndicales jusque fin juin. Donc, faut pas raconter, contrairement à ce qui peut
En même temps, on voit bien qu'elle marche pas.
Alors, effectivement, il y a des grandes difficultés. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme vous disiez, c'est que le cœur de la réforme est resté, à savoir, un, l'ouverture à la concurrence, deux, le changement de statut de l'entreprise, et l'incessibilité des capitaux, ça peut tout à fait être détourné via la privatisation des filiales, et trois, le changement de statut des cheminots, ce qui va affecter les usagers. Ce qui va affecter également les travailleurs, parce que s'attaquer au statut des cheminots, derrière, il y a aussi plein d'autres statuts qui pourront être visés.
Justement là-dessus, on va revenir dans un instant sur la SNCF et cette adoption par le Sénat, l'info. À 20h10, Stéphane Milhomm.
Un suspect belge mis en examen en France pour complicité dans la préparation des attentats de novembre 2015. Selon le parquet de Paris, il a été remis aujourd'hui à la France. Yassine Attar, 31 ans, a été arrêté en mars 2016 en Belgique. Il est le frère d'un vétéran du djihad soupçonné d'avoir piloté ses attaques depuis la Syrie. La garde à vue de Théo Louaka et de plusieurs membres de sa famille est prolongée ce soir. Théo, c'est ce jeune gravement blessé lors d'une interpellation en 2017 à Aulnay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Mais aujourd'hui, il est interrogé avec cinq de ses proches dans une affaire de soupçon d'escroquerie. Un tiers de la France reste en vigilance orange face aux orages de la Marne au Lot et Garonne, de la Haute-Saône jusqu'à l'Isère, avec une grande partie du nord-est de la France. Ce soir, Météo France lève en revanche sa vigilance pluie et inondation pour le département de l'Eure. Les comptes de la Sécurité sociale sont quasiment à l'équilibre en 2018. Le déficit global devrait se réduire fortement cette année à au moins 300 millions d'euros au lieu des 2 milliards 200 millions inscrits en loi de finances. Ces bons résultats s'expliquent par une croissance meilleure que prévue selon la commission des comptes. Et puis à Roland-Garros, un invité surprise en demi, l'Italien Marco Cecchinato, 72e joueur mondial, a battu ce soir le Serbe Novak Djokovic après 4-7 d'un match très serré. Et après cette défaite, Djokovic, ex numéro 1, ne sait pas s'il jouera la saison sur herbe.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, est-ce qu'on s'approche de la fin d'un conflit ou pas, de la SNCF, puisque aujourd'hui le Sénat a voté donc le projet de loi relatif à la SNCF, 240 voix pour, 85 contre. La suite du programme législatif, eh bien c'est une commission mixte paritaire, c'est là où l'Assemblée et le Sénat se réunissent pour avoir un texte commun. Albert Zemmour, aujourd'hui ça veut dire quoi pour vous cette mobilisation? Elle peut tout de même tenir? Les syndicats mettent toujours en avant qu'ils sont mobilisés davantage qu'en 95, c'est-à-dire que cette grève dure plus longtemps que 1995.
Elle dure plus longtemps parce qu'elle a été étalée sur le temps. Alors, en durée, effectivement, de jours de grève, il y a quelques jours de grève de plus. Mais on voit bien que, comme disait Christophe, la mobilisation n'a pas pris dans l'opinion publique, n'a pas pris dans la fonction publique. On voit bien qu'il n'y a pas de relais de cette grève dans les autres parties de l'économie française. Donc il y a du mal. D'autant que Edouard Philippe, même si on peut penser que la réforme ne bouleverse pas énormément de choses à la SNCF, puisque le changement de statut, c'est pour à partir de 2020 pour les nouveaux entrants. C'est-à-dire qu'on va mettre 20 à 30 ans pour que l'ensemble de l'entreprise soit au nouveau statut. en gros. Il n'y a pas de grand changement. Et puis, Édouard Philippe a annoncé que la dette de la SNCF allait être reprise. Donc on va payer la dette de la SNCF, nous contribuables.
Pas totalement,
35 milliards. Non, mais bon, après il y aura.
On ne sait pas ce que vont devenir les autres. Alors justement, les 5-10 milliards restants.
La mobilisation syndicale, elle va être compliquée. C'est déjà la mobilisation n'arrête pas de chuter. À partir du 12 juin, je vois mal quand même les syndicats remobiliser encore les grévistes.
Oui, Jadzab, est-ce que ça a servi à quelque chose finalement cet examen-là au Sénat en disant, bien sûr, il est obligatoire, mais en disant, on modifie juste à la marge, est-ce que c'était une manière de communiquer autour, regardez, on peut faire un geste et en fait, on se rend compte ce soir qu'il n'y a pas grand-chose, quoi, de nouveau.
Non, mais j'ai l'impression que le Sénat est dans son rôle aussi parce qu'un des autres éléments qui a été apporté par les amendements, c'est par exemple les contrats de service public pour répondre à tous ces objectifs d'aménagement du territoire. On parlait de la suppression des petites lignes qui avaient été évoquées dans l'avant-projet quand il avait été présenté. Le Sénat est dans son rôle quand il dit l'État doit refaire des contrats publics pour éviter la suppression de ces lignes. Donc, je dirais jamais que l'intervention du Sénat est inutile. Je pense qu'il est dans son rôle. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir comment est-ce que l'Assemblée et le Sénat vont réussir à se mettre d'accord sur les positions restantes. Ensuite, est-ce que c'est un coup politique? Le Sénat est plutôt traditionnellement conservateur. Aujourd'hui, il essaye de montrer qu'en fait, il peut être du côté des syndicats. Enfin, ils veulent donner envoyer le message que voilà, nous vous avons entendu alors que le gouvernement ne vous a pas entendu. Faites-nous confiance. Grosso modo, on peut voir ça comme ça. Est-ce que les syndicats l'entendent?
Je ne suis pas certain qu'ils le voient comme ça.
Je veux dire, il n'y a quasiment rien de nouveau au Sénat. Et là, ce qui est, je crois quand même que beaucoup de monde s'accorde à dire que quasiment rien n'a changé de la part du gouvernement depuis le début de ces propositions. Le cœur de ce qu'il propose reste le même et c'est un vrai problème d'ailleurs parce que on a en face des syndicats qui sont globalement unis et c'est quelque part une négation des corps intermédiaires, l'occurrence des corps syndicaux, que de poursuivre ainsi et de ne rien changer, de rester droit dans ses bottes alors que il y a une contestation de la part des syndicats. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés de relais dans l'opinion publique. Oui. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que sur la question de l'écologie aussi, ça aurait pu être un vrai sujet. Puisqu'on a notamment le transfert modal, c'est-à-dire que le gouvernement croit, et Emmanuel Macron en particulier, au bus. Et ici, vraiment, je pense, va fragiliser le transport par le train. Alors même que écologiquement, c'est ça la solution. Et qu'il faudrait non seulement annuler la dette, mais il faudrait investir beaucoup plus pour justement faire en sorte que le train devienne demain un transport réellement développé.
Oui. Comment on annule la dette?
Eh ben on y met d'abord des investissements, on réorganise.
Il y a des investissements.
C'est
nous qui paierons la fin. C'est le contribuable qui paye à la fin.
Mais de toute façon, avec la privatisation, l'usager paiera par l'augmentation du prix.
Il n'est pas du tout question de privatisation aujourd'hui.
Ça
prépare une privatisation.
Je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. Vous dites que rien n'a changé. J'ai une impression tout autre. Souvenez-vous quand la ministre des Transports, Mme Borne, a fait une tribune dans Le Parisien, c'était un vendredi soir, pendant le week-end, le lundi soir, elle a reçu les syndicats et il a été question de décaler. On a décalé l'ouverture à la concurrence de 2020-2035. Je comprends votre point de vue. L'idée d'un consensus et d'un dialogue entre le gouvernement et le syndicat, c'est qu'il y a quand même un cœur dans cette réforme. Je comprends évidemment que l'objectif des syndicats est de faire en sorte qu'on puisse évidemment trouver un accord, mais mettez-vous à la place du gouvernement. Jamais le gouvernement reviendra sur le cœur de sa réforme, qui est l'ouverture à la concurrence. Il y a des aménagements qui ont été faits au Sénat aujourd'hui.
C'est voté avant même l'élection d'Emmanuel Macron. C'était sous François Hollande. C'est une directive européenne.
Sur le délai.
On présente toujours ça comme une option. L'ouverture à la concurrence n'est pas optionnelle au niveau européen. Alors, elle va se faire d'une manière très progressive, différente selon les pays, mais elle n'est pas optionnelle aujourd'hui.
Il y a des aménagements possibles dans le cadre de services public d'intérêt général, et on n'est pas obligé d'appliquer à la lettre ces directives.
Non, mais je crois d'ailleurs que la France va l'adapter
encore beaucoup plus et éviter cette ouverture à la concurrence qui va mener évidemment à la privatisation. Et je le répète, l'incessibilité des capitaux n'est absolument pas un moyen de. Alors, tant mieux que ce soit présent, mais ça n'empêchera pas la privatisation progressive par le biais des filiales,
ça,
notamment.
C'est vous qui le dites, c'est pas.
On aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler, notamment donc le 12 juin pour cette commission mixte paritaire. ministère. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que le 12 juin, c'est aussi la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si tout ça peut-être qu'ils en parleront. Hein, je ne sais pas en tout cas. Allez, nous, on va parler toujours d'économie parce que c'est ce qui s'appelle l'effet papillon. Alors, c'est pas qu'une chanson de Benabar, qui n'est pas l'inspiration première de cette émission. Bon, en fait, on s'en fiche un peu. Mais c'est un peu l'effet papillon. Vous savez, ce battement d'aile au Japon qui provoquerait une tempête au Brésil ou la théorie des dominos. Le premier qui tombe entraîne les autres. Bref, ça va pas du tout. Les premières conséquences du retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien arrivent les unes après les autres. Et notamment pour les entreprises françaises. Après Total, c'est donc le constructeur automobile PSA qui va se retirer du marché iranien. En effet, si PSA continue à commercer avec l'Iran, eh bien, il pourrait se voir sanctionné par les États-Unis par des pénalités ou des interdictions de vente là-bas. Il s'agissait donc du premier marché étranger pour PSA. Alors, le Premier ministre israélien est en visite à Paris afin de rallier des pays européens à sa volonté d'isoler l'Iran. Cette affaire vire totalement au casse-tête pour les entreprises françaises. Mais tout ça est rien de plus normal, selon le patron du MEDEF, Pierre Gattaz.
C'est une très mauvaise nouvelle pour PSA, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que vous avez face à cette décision américaine des sanctions. Aujourd'hui, tout le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que fait l'Europe ? Et la réponse sera forcément politique et sera forcément européenne.
Alors, le président du MEDEF, Pierre Gattaz, hier sur France Info, c'est vrai qu'Albert Zemmour, ce qui paraît étonnant quand même dans cette histoire, on l'a vécu d'ailleurs sur France Info avec le retrait des Américains, quand ils disent qu'il y a des sanctions, ce qui semble, c'est que tout le monde les applique. C'est-à-dire, voilà, les entreprises françaises, elles sont donc pieds et poings liés par la décision d'un seul pays.
Oui.
C'est ça, c'est terrible.
Il y a déjà un précédent. La BNP Paribas a payé 9 milliards de dollars ou d'euros, enfin, c'est à peu près pareil, pour avoir commercé avec l'Iran. Donc, tout ça reste dans la tête des chefs d'entreprise français et européens. Et ils comprennent que la loi du plus fort, c'est la loi des Américains. Et pour l'instant, l'Europe étant assez faible de ce point de vue-là, ne pourra pas imposer, en tous les cas comme ça, sa volonté. Donc on en vient à respecter la volonté initiale des Américains. Le commerce avec l'Iran, pour PSA c'est important, mais pour la France c'est pas beaucoup. Je crois que c'est 0,1% du PNB, symboliquement, bien sûr, les États-Unis arrivent à imposer leurs lois.
Alors on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Et le bilan passe ce soir à 55 morts après le naufrage d'un bateau de réfugiés à Tataouine en Tunisie. 7 nouveaux corps ont été repêchés par la marine après le naufrage de cette embarcation au large de Sfax. Les victimes sont principalement des Tunisiens, issus également d'autres États africains. Le reportage de complément d'enquête sur Vincent Bolloré n'est pas diffamatoire. Le tribunal correctionnel de Nanterre relaxe France 2 et le journaliste auteur du portrait de l'industriel et de ses activités en Afrique. Pour Élise Lucet, rédactrice en chef de l'émission, la liberté d'informer a gagné. Les avocats de Vincent Bolloré veulent maintenant faire appel de ce jugement. Face aux sanctions américaines contre l'Iran et ses partenaires commerciaux, Bruno Le Maire attend des exemptions de la part de Washington et des délais supplémentaires. Pour le ministre français de l'économie et des finances, ce n'est pas aux États-Unis de décider avec quel pays nous pouvons faire du commerce. Le LOSC officiellement maintenu en Ligue 1 par le gendarme financier du foot français. Les responsables illois ont plaidé la cause de leur club. La direction nationale de contrôle et de gestion lève l'interdiction de recrutement, d'encadrer la masse salariale et les indemnités de mutation. Et puis une russeur, Emmanuel à Paris, mais aussi Ronan Gonnet, du nom du jeune homme poignardé le mois dernier par un terroriste. Ses plaques et d'autres noms seront prochainement visibles dans la capitale. Les élus du Conseil de Paris ont voté aujourd'hui à l'unanimité ces propositions.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, hier, PSA a annoncé son retrait donc du marché iranien pour éviter les sanctions imposées par Washington depuis son retrait de l'accord sur le nucléaire iranien. Vous l'avez entendu à l'instant, Bruno Le Maire a déclaré « Ce n'est pas aux États-Unis de décider avec qui la France doit faire commerce. » Christophe Félix, ainsi.
C'est quand même assez étrange parce que il y a une double rhétorique en Europe. On va pas se laisser imposer la loi par les États-Unis. On va répliquer commercialement. On sait déjà qu'il vient d'y avoir aux États-Unis des nouvelles mesures douanières sur l'acier et l'aluminium. Et ensuite, Bruno Le Maire nous explique d'une certaine manière qu'il va quémander des exemptions pour les entreprises françaises. Donc, plutôt que d'avoir une réponse européenne, quelque chose de plus global, on a l'impression que chaque pays essaye d'aller justement plaider sa cause personnelle auprès des États-Unis, alors que l'administration Trump, franchement, ne fait absolument aucun cadeau depuis maintenant plusieurs mois aux acteurs économiques européens. Donc l'Europe est impuissante et cette déclaration de Le Maire, finalement, le confirme.
Et Aurélie Trouvé, quand voilà, vous entendez ça aujourd'hui, la réponse, elle ne peut être qu'européenne quand on voit ça, parce que, enfin, bien sûr, il y a la France qui quitte le marché iranien, mais on imagine que ce ne sera pas la seule, d'ailleurs, entreprise européenne à quitter ce marché-là. Hein.
C'est pas que des enjeux économiques, quoi, hein. C'est des enjeux politiques et de paix dans cette région du monde. C'est des conséquences potentiellement dramatiques. Hein. C'est-à-dire que le fait que Donald Trump se soit retiré de l'accord sur le nucléaire est un vrai enjeu aujourd'hui de paix dans le monde. Enfin, met en danger la paix dans le monde. Et moi, de ce point de vue-là, le comportement d'Emmanuel Macron, sa politique m'interroge, puisqu'il en appelait à la grandeur de l'Europe pour restaurer une politique étrangère européenne. Il faut se rappeler que quand il a été accueilli par Donald Trump aux États-Unis, il a lui-même ouvert quelque part la porte en disant « bah oui, pourquoi pas un nouvel accord ou en tout cas remettre en cause ». Et d'ailleurs, les pays européens lui ont reproché parce qu'il y est allé sans avoir discuté en amont, en tout cas sans s'être mis d'accord en amont avec ses partenaires européens. Et là, je pense que ça pose énormément de problèmes, effectivement, de ne pas avoir suffisamment de dialogue avec ses partenaires européens.
C'est un peu un échec de la politique de Macron, dont on a vu depuis le début de son mandat qu'il avait essayé plusieurs fois de tendre la main à Donald Trump et il n'a rien eu du tout en échange. Il paraît d'ailleurs que cette semaine, le ton a un petit peu changé.
Oui, tout à fait, il l'a appelé.
Parce que voilà, et il paraît que là, Trump commence à être un petit peu
énervé.
Jadzab, alors en fait, c'est vrai que ça pose une question. Alors justement, vous qui êtes étudiant, je vais vous poser une question digne d'un examen. Est-ce qu'on peut entretenir des bonnes relations diplomatiques sans relations économiques finalement? Parce que c'est ça aussi. Ça. Là, aujourd'hui, avec l'Iran, on nous dit... C'est pas grave que les États-Unis soient sortis de l'accord sur le nucléaire iranien. On va continuer, nous, les Européens. Mais là, on voit qu'on s'exécute.
Mais c'est très compliqué et je crois que je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que ça remet en perspective la politique d'Emmanuel Macron qui a consisté depuis le début à, non pas ouvrir les bras à Donald Trump, mais en tout cas d'avoir une politique très conciliante et très amicale. Ce qui est certain aujourd'hui, comme vous le disiez, c'est qu'il y a à la fois des enjeux pour la paix mondiale, puisque l'Iran est un acteur indéniable de la situation au Moyen-Orient, en Syrie, mais pas que. Et sur les relations commerciales, vous disiez tout à l'heure que ça doit être une solution européenne. Moi, j'irais même encore plus loin en disant que ce sera une solution franco-allemande et franco-britannique. Et ces trois pays-là sont, à mon avis, au cœur de la riposte face, entre guillemets, à ce que vient de... face à ces sanctions économiques de Donald Trump.
Tout le monde agit tout seul, hein, comme on dit.
Mais bien sûr, voilà. Et je crois que c'est cette situation-là doit appeler une réponse de ces trois pays. Et c'est un peu un encouragement à ce qu'ils prennent des positions communes là-dessus. D'ailleurs, le Premier ministre israélien Netanyahou, il était hier en Allemagne, aujourd'hui à Paris et demain à Londres.
C'est un peu déjà un axe
de réponse européen qui se...
Les Américains ont compris une chose, c'est que l'Europe ne fera pas grand-chose. Comme la Russie a compris que l'Europe ne fera pas grand-chose non plus. Ils savent très bien qu'ils peuvent s'asseoir à peu près facilement sur les décisions européennes et la diplomatie européenne qui n'existe pas vraiment. On voit bien que chaque pays au sein même de l'Europe essaye malgré tout de tirer les marrons du feu. Macron essaye d'avoir une diplomatie française qui ne soit pas vraiment celle de l'Europe. Donc on met en avant la volonté d'avoir une diplomatie européenne, mais en réalité chaque pays essaye défendre ses propres intérêts.
Oui, je voudrais aussi réagir parce qu'il y a quand même aussi un autre sujet dans l'accueil de Benjamin Netanyahou. C'est quand même un pays qui ou en tout cas un État qui a organisé, en tout cas dans lequel il y a eu un assassinat de population civile et de journalistes palestiniens, 120 morts, 8000 blessés, et voilà, pas que des civils, mais donc 120 morts, 8000 blessés, mutilés, dont des journalistes. Hein, aujourd'hui, il y a une réaction du monde journalistique vis-à-vis de ça, et je trouve que cet accueil, en tout cas, pose énormément de questions aussi du point de vue des droits internationaux et d'un État qui aujourd'hui piétine les droits internationaux et les droits notamment des populations palestiniennes.
Christophe Alix, vous vouliez...
Pour revenir au cas européen, il paraît que l'Allemagne est un facteur très bloquant, parce que l'Allemagne est le deuxième exportateur mondial, et que l'Allemagne a très peur de se fâcher avec les États-Unis, et que donc il est très difficile apparemment de mettre en place un axe franco-allemand sur la riposte européenne par rapport à l'Iran, et que c'est une des difficultés justement d'Emmanuel Macron, parce que les Allemands ne veulent pas les Allemands ne veulent pas perdre l'accès à leur marché.
Oui, bien sûr. Oui, ben, mais on
parce
le
que
voit,
c'est le deuxième exportateur mondial. C'est beaucoup plus vital pour l'exportation et totalement vital pour l'économie allemande.
Allez, dans un instant, nous, on va parler de politique française avec, en parlant du cas Laurent Wauquiez. C'est un peu notre séquence perdue de vue ce soir aux Informés de France Info. On parlera également fake news, hein, puisque la loi, les discussions commenceront à partir de jeudi. Vous savez, sur cette loi, voilà, sur les fausses nouvelles, ça sera l'Assemblée nationale. Voilà la suite du programme pour les Informés de France Info.
Du 1er au 10 juin, c'est la semaine de la coopération agricole.
Les coopératives agricoles vous ouvrent leurs portes pour échanger, déguster ou s'amuser en famille ou entre amis.
Découvrez le programme sur lacoopérationagricole.coop.
Coopérer, c'est agir ensemble pour le bien commun.
International.
Malacca, à l'est de Gaza, est une plaine de sable vide, occupée seulement par quelques ambulances et des journalistes. Il n'y a pas de mobilisation.
Économie. La réunion s'est tenue à huis clos, à l'écart des journalistes. Impossible de connaître les noms des entreprises conviées à Bercy. Elles ne veulent pas de publicité, souffle un conseiller.
Culture. Les mémoires à l'écriture classique, minutieuse, c'est la Simone de Beauvoir, chroniqueuse au long cours et très précise de sa vie qui a été choisie par la Pléiade.
Pour l'info, 24 heures sur 24, France Info. Deux points, ouvrez l'info.
France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Jean-Pierre Hameau.
Ce soir, les orages seront encore violents par endroits, en particulier du Massif central à la région Rhône-Alpes, mais aussi de la Bourgogne à la Franche-Comté, en débordant vers le sud de la Lorraine et de l'Alsace. Attention, les cumuls de pluie seront une nouvelle fois importants par endroits, provoquant ces phénomènes de crues éclairs. Et naturellement, la grêle et les rafales de vent seront aussi de la partie. Demain matin, on attend un temps plus calme, mais sous un ciel encore très nuageux. Des éclaircies tout de même près des frontières du nord-est et le long de la vallée du Rhône et de la Saône. Et pour ne pas changer, les orages reprendront du service l'après-midi, des orages toujours forts du sud-est à la région parisienne en passant par le centre et jusque vers les Ardennes. Seules les régions du sud-ouest seront épargnées, mais le ciel restera bien nuageux. Les températures en fin de nuit seront comprises entre 12 et 18 degrés, comptez 12 à Brest et 18 à Nice. Les maximales seront stationnaires et comprises entre 17 et 29 degrés d'ouest en est.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, on retrouve Augustin Rivé, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La loi Asile Immigration, Édouard Philippe dévoile une série de mesures censées favoriser l'intégration des étrangers, avec entre autres une formation civique renforcée, des mesures tirées d'un rapport du député La République En Marche Aurélien Taché. Mais Louise Baudet, d'autres de ces idées n'ont pas été conservées.
L'idée directrice est de mieux intégrer les primo-arrivants, qu'ils soient demandeurs d'asile, candidats au regroupement familial ou migrants pour raisons professionnelles. Un sujet de dignité pour l'ensemble de la nation, affirme Édouard Philippe. Car en la matière, la France est en bas de tableau. Au bout de 5 ans de présence sur notre sol, seul un étranger sur 3 est intégré dans le monde du travail. Comme prévu, le Premier ministre annonce le doublement des heures de français proposées aux étrangers s'installant légalement en France. Doublement aussi de la formation civique, car le respect des valeurs républicaines n'est pas une option, mais une obligation, précise Édouard Philippe. Et puis, second volet, l'accès à l'emploi, qui pour les réfugiés sera autorisé 6 mois après le dépôt de la demande d'asile, contre 9 actuellement. Plusieurs programmes expérimentaux seront par ailleurs renforcés et des réseaux d'entreprises mobilisés. Pas de mesures spécifiques en revanche sur l'hébergement, en dehors des 20 000 logements que les préfets doivent déjà mobiliser. Enfin, le coût du dispositif n'est pas précisé, enveloppe estimée à 100 à 200 millions d'euros, contre plus de 600 millions préconisés par le rapport Taché.
Louise Baudet, pas de surprise au Sénat, adoption sans difficulté du projet de réforme de la SNCF. Les parlementaires y ont fait quelques modifications. Le caractère incessible de la compagnie est maintenant inscrit dans le texte. D'après la CGT Cheminots ce soir, ça ne change rien à la grève qui reprendra jeudi. En plus des 27 départements concernés par la vigilance orange météo France aux orages, la zone va de l'Aude à la Marne, il y a un 28e département concerné par une alerte aux inondations. C'est l'heure où un automobiliste est mort noyé Montpellier aujourd'hui. Sa voiture s'est renversée dans une cuvette, c'était à Piseux. Benjamin Netanyahou à l'Elysée ce soir pour discuter de l'accord sur le nucléaire iranien. Le premier ministre israélien aimerait que les puissances européennes s'en retirent. Emmanuel Macron redit ce soir le risque d'un conflit en cas d'abandon de ce texte. Le nouveau premier ministre italien devant les sénateurs de son pays. Discours de politique générale pour Giuseppe Conte, venu du mouvement 5 étoiles. Il a expliqué que son gouvernement n'avait jamais envisagé de sortir l'Italie de la zone euro et il a revendiqué son populisme, si ça signifie, a-t-il précisé, être capable d'écouter les besoins des personnes. Le gendarme financier du football accorde au LOSC de rester en Ligue 1 la saison prochaine. Le club lillois, dont l'économie inquiétait les instances dirigeantes, sa masse salariale sera tout de même encadrée, mais la menace de rétrogradation est levée et les recrutements peuvent reprendre. Et puis, c'est la grande surprise de ce Roland-Garros. L'Italien Marco Cecchinato est qualifié pour les demi-finales. La suite des informés, c'est tout de suite avec Jean-Mathieu Pernin, 20h33 sur France Info.
20h21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils dégustent un petit peu l'actualité dans une verrine du meilleur traiteur de la capitale. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Jad Zahad, président du Parlement des étudiants, également Christophe Alix de Libération, Albert Zenou du Figaro et Aurélie Trouvé d'Attaque France. Alors, il faut absolument que je vous raconte, voilà, je vous prends un peu à témoin. Hier soir, je suis rentré chez moi, seul, dans la nuit sombre d'une ruelle au pavé mouillé, une chandelle à la main pour déguster une biscotte associée à une sardine périmée. Ben voilà, c'est la réforme, hein, vous savez ce que c'est. Et là, d'un coup, ça m'a frappé. Mais au fait, qu'est-ce qui devient Laurent Wauquiez ? Non, mais c'est vrai, c'est un peu comme quelqu'un qu'on a perdu de vue et plus aucune nouvelle de l'homme au manteau rouge. Alors, rien. Voilà, depuis ses propos dans une école de Lyon, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes fait une petite cure de silence médiatique. On l'entend assez peu alors que son parti représente tout de même le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Et puis, aujourd'hui, il est revenu dans une tribune publiée par le Figaro, un texte signé également par le président des sénateurs Les Républicains Bruno Retailleau, celui de député Christian Jacob et de Franck Proust. Alors lui, c'est le chef de la délégation des Républicains au groupe PPE au Parlement européen. C'est une tribune sur l'Europe. Alors, pas des plus délicate, mais qui montre un durcissement des Républicains sur le sujet. Je cite, l'identité européenne ne doit plus nous faire honte, mais nous rendre fiers. Il est temps qu'au nom de l'Europe, que nous voulons, nous changions l'Union européenne ou protégeons notre civilisation. Bref, on s'inquiétait, mais Laurent Wauquiez et ses amis sont en forme. La preuve sur un récent tract intitulé « Pour que la France reste la France », un vrai programme pour Nadine Morano.
La France aujourd'hui n'est plus la France lorsqu'elle est écrasée d'impôts, lorsque nous sommes champions européens de la fiscalité, lorsque nous sommes submergés par la vague migratoire, lorsque nous devons faire face au terrorisme, lorsqu'on tue nos policiers dans les rues, lorsque des jeunes même sont assassinés dans les rues.
Voilà, oui, c'est dramatique, comme le dit Jean-Jacques Bourdin. En effet, là, le constat dressé par Nadine Morano, députée LR, donc européenne. Après, donc, ce tract intitulé « Pour que la France reste la France », maintenant, cette tribune, Albert Zenou, ça se durcit chez les Républicains au niveau de la ligne, là.
Non, ça se durcit pas. Je pense que les Républicains ont à régler le problème de la ligne. On sait bien que au sein même du parti, il y a des gens qui sont fondamentalement pro-européen et d'autres qui le sont un peu moins. Donc il va falloir trancher, il va falloir trouver une ligne d'accord. D'ailleurs, il y a un comité des sensibilités qui a été mis en place et donné à Jean Linotti, qui est un pro-européen et un centriste pour le cas. Et donc il va falloir trancher. Les Républicains voient que dans l'Europe ça ne marche pas. Enfin, l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui mise en marche, ça ne marche pas. Les pays de l'Est la rejettent.
Et pourtant, ils sont dans le groupe majoritaire au Parlement européen. Mais c'est pour ça que c'est bizarre, c'est qu'ils critiquent une Europe qu'ils mettent en place.
Non, l'idée, c'est de faire monter un nouveau projet pour changer l'Europe. Ouais. Donner, alors, la tribune que nous avons publiée ce matin, c'est donner de la protection aux Français et aux Européens.
Les mots sont quand même, Jadzab, les mots employés là, sont particuliers. À la part des Républicains, protégeons, serait notre civilisation. Je sais pas si on l'avait déjà entendu dans une tribune de la part d'un président des Républicains, de l'UMP ou de RPR, non ?
Oui, c'est protégeons sous-entendu notre civilisation face à cette marée de migrants. Nadine Morano vient d'utiliser le terme.
Non, il parle même
la prose se rapproche énormément de celle du Front National et ça me fait beaucoup rire parce qu'hier, Christophe Castaner a laissé évoquer l'idée que potentiellement LREM pourrait s'allier aux Républicains.
Pour les municipales.
Là, aujourd'hui, quand il va voir le discours de Laurent Wauquiez, je crois crois qu'il va regretter ce qu'il a déclaré hier. L'élection n'est pas la même, mais le curseur politique de Laurent Wauquiez, il est à droite, il est très à droite. Il se rapproche énormément de ce qu'a pu dire Marine Le Pen pendant un certain temps. Je suis assez déçu par cette prose, parce que Laurent Wauquiez, là, dans ce qu'il dit, il n'a plus rien de républicain. Protégeons notre civilisation face à cet intégrisme islamiste qui nous a collectivement déclaré la guerre, sans doute. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça sous-entend l'idée que l'Europe ne se protège pas assez au niveau de ses frontières, et c'est la faute des frontières. C'est pour cette raison qu'on a des migrants qui font la guerre. C'est totalement inacceptable.
Non, je ne peux pas le dire que Laurent Wauquiez n'est pas républicain. Il est totalement républicain. C'est pas parce que on ne veut pas qu'il y ait un afflux de migrants en Europe et en France qu'on n'est pas républicain. C'est pas parce que on veut que l'Europe protège les emplois, protège.
Ça, tout le monde le dit maintenant.
Bah oui, mais c'est la base même. Et puis quand on voit ce qui se passe avec la montée des périls, que ce soit en Italie, que ce soit dans les pays de l'Est, est-ce qu'on peut laisser la France dériver? Est-ce qu'on peut laisser l'idée de l'Europe se déliter complètement? Je pense qu'il faut changer quelque chose. Donc c'est en ça que la tribune, je pense qu'elle est là pour réveiller un peu les consciences. Hein, c'est...
Oui, Aurélie Trouet.
Oui, alors en plus ça vient quand même d'un personnage politique qui a été responsable dans un gouvernement qui, de mon point de vue, justement a alimenté le rejet de l'Europe, qui a soutenu les politiques d'austérité européenne, qui a soutenu en tout cas qui n'a absolument pas soutenu l'harmonisation sociale et fiscale vers le haut, bref, qui a défendu une Europe qui au contraire ne protège absolument pas les citoyens du point de vue social, quoi. Donc maintenant ils se réveillent, ils se disent ah mince, il y a un besoin de protection de la part des citoyens, ils rejettent l'Europe. Ils le font à la sauce, je dirais, avec une dérive extrême droite quand même relativement forte. Quand on dit attention à la pression migratoire, etc. Bon, c'est bien quand même ce qui ressort essentiellement de la tribune.
Le débat en radicalisation, mais
je voudrais faire le lien surtout avec, à mon avis, il y a une dérive générale par ailleurs. On le voit avec la loi asile et immigration qui est aujourd'hui fortement contestée et qui est une loi en marche, qui est fortement contestée aujourd'hui par toutes les associations de défense des migrants, mais aussi un gouvernement qui est régulièrement rappelé, condamné aujourd'hui par l'ONU, par le Conseil d'État, par le Défenseur des droits de l'homme, parce que notamment les droits des migrants, notamment les droits des mineurs isolés, ne sont pas respectés. Aujourd'hui, on criminalise de plus en plus les défenseurs des migrants.
Donc, vous dites que c'est un contexte ambiant,
exactement,
en fait, c'est ça,
et qu'il y a une dérive générale, en fait.
Alors, on va continuer à en parler de ça dans un instant, de ce texte de Laurent Wauquiez, également du positionnement de la droite. On va essayer d'ailleurs de comprendre. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Dans le dossier du nucléaire iranien, Emmanuel Macron met en garde ce soir toutes les parties contre un risque de conflit. Il ne faut pas, dit-il, céder à l'escalade. Le président de la République vient de recevoir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou au moment où l'Iran annonce une augmentation de sa capacité d'enrichissement d'uranium. Avec quelques modifications, le Sénat et sa majorité de droite votent la réforme du ferroviaire défendue par le gouvernement. Entre l'ouverture à la concurrence et la fin du statut des cheminots pour les nouvelles recrues, grève jeudi et vendredi prochain des cheminots, ce sera le 14e épisode. Les grèves ont leurs conséquences sur le secteur de l'hôtellerie. Les établissements subissent un manque à gagner total de plus de 100 millions d'euros depuis le mois d'avril. Addition de la grève à la SNCF, mais aussi celle d'Air France, surtout pour l'Île-de-France, des estimations du cabinet spécialisé MGK Consulting. Ce soir, Météo France lève sa vigilance pluie et inondation pour le département de l'Eure, mais un tiers de la France reste en vigilance orange face aux orages, de la Marne au Lot-et-Garonne, de la Haute-Saône jusqu'à l'Isère, avec une grande partie du nord-est de la France. Et puis, Checky Nato, 72e joueur mondial, n'avait jusqu'ici jamais remporté de match dans un tournoi majeur. C'est fait depuis ce soir sur la terre battue de Roland-Garros. L'Italien a battu le Serbe Novak Djokovic, ex numéro 1 mondial, après 4-7 d'un match très serré.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. On parle de Laurent Wauquiez. Et oui, figurez-vous, il est toujours là, Laurent Wauquiez, même si ça marche pas pour lui tellement dans les sondages. En ce moment, il a publié aujourd'hui une tribune dans le Figaro avec Bruno Retailleau, Christian Jacob, sur l'idée qu'il se fait de l'Europe. Et avec des termes assez durs, notamment sur l'identité européenne. Il veut protéger également la civilisation, je cite ces termes, la civilisation européenne. Donc c'est vraiment des termes assez durs. Après qu'un tract ait fait polémique au sein même des Républicains, qui était intitulé « Pour que la France reste la France », Christophe Alix, donc un discours on n'avait pas l'habitude peut-être de voir aussi profond chez les Républicains.
C'est sûr, d'autres Républicains vont pas être très contents.
Voilà, mais justement, c'est quitte à perdre les modérés. C'est-à-dire que là, aujourd'hui...
De toute façon, on voit bien que c'est la stratégie on voit bien que c'est la stratégie de Laurent Wauquiez depuis le début, depuis qu'il a pris les Républicains. Il affirme que il a une stratégie de droitisation, mais que cette stratégie... il reconnaît pas que c'est une stratégie de droitisation, mais c'est ce qu'elle est dans les faits. Il dit qu'elle n'ira jamais jusqu'à aucune forme de collision avec le Front National. Pour l'instant, ça n'a pas vraiment été le cas. Mais effectivement, on a là un discours, même si il remet pas en cause l'euro. Il se félicite d'un certain nombre de programmes économiques européens également dans son texte.
Parle vraiment d'identité, quoi.
Suis marqué par le fait que quand il dit que les Européens veulent plus de protection, aujourd'hui, absolument tout le monde le dit. Quand on voit la vague populiste en Europe, on voit bien qu'effectivement, il y a un problème dans un certain nombre de pays, il y a un problème de régulation économique au niveau européen. Mais sur le fond, effectivement, sa réponse, c'est l'Europe doit défendre sa civilisation judéo-chrétienne. Je ne vois nulle part dans son texte des propositions concrètes pour faire avancer le fonctionnement de l'Union européenne, pour améliorer sa gouvernance. Et il est effectivement sous un discours finalement très culturel, un discours d'affrontement qui justement n'apporte aucune réponse aux mots qu'il dénonce et au diagnostic finalement que beaucoup de gens partagent aujourd'hui.
Albert Zin.
Non, je pense que pas totalement faux. Laurent Wauquiez a compris une chose, c'est que de toute façon, la France n'a jamais été aussi à droite qu'elle l'est aujourd'hui. Même avec l'élection d'Emmanuel Macron. Maintenant, on pourrait dire surtout l'élection d'Emmanuel Macron. Et toute la partie de la droite centriste, la droite modérée, on va dire, j'aime pas ce mot, mais en tous les cas, cette droite-là, juppéiste, on va dire, elle est partie chez Macron, ou en voie de partir chez Macron. Donc, le seul créneau qui reste à Laurent Wauquiez, c'est une droite affirmée, décomplexée, comme l'appelait avant.
Comme lui le dit, une droite vraiment de droite, c'était son slogan.
Une droite vraiment de droite. C'est le seul créneau qui lui reste. S'il décidait d'aller l'opération de Emmanuel Macron qui a visé, après son élection, à se déporter sur sa droite, en étant élu d'abord par le centre-gauche et ensuite déporté sur le centre-droit, fait que Laurent Wauquiez...
C'est le seul créneau qui lui reste, en fait, c'est ça?
C'est le seul créneau qui lui reste, et je pense que... Et puis, il y a une aspiration...
Ça correspond à ses convictions, en plus.
Il y a une aspiration forte des Français à défendre aussi un modèle, à défendre une identité. C'est souvent galvaudé et moqué, mais il y a une vraie volonté de défendre une identité.
On va parler... Jazab, justement.
Mais non, je suis totalement en opposition avec ce que vous venez de dire. Regardez les résultats de l'élection présidentielle, dernière fois, le second tour était en fait un référendum pour ou contre l'Europe. Alors évidemment, le résultat...
Avec tout de même un François...
Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le résultat du second tour était forcément beaucoup plus important pour Emmanuel Macron parce qu'il y a un vote de rejet face à Marine Le Pen. Mais malgré tout, ce second tour était un peu en fait un référendum pour ou contre l'Europe. Qu'est-ce qu'on veut pour l'Europe et qu'est-ce qu'on veut pour la France dans cette Europe? Donc effectivement, l'Europe, elle est imparfaite. Et je crois que là-dessus, Laurent Wauquiez le sait. Il y a contribué parce qu'en plus, il était secrétaire d'État en charge des affaires européennes. Et il a fait partie du gouvernement qui est revenu sur le vote de 2005 en faisant passer le référendum via le Congrès. Donc, il en est conscient de ça. Sa réponse me semble très opportuniste parce que, justement, le créneau qui lui reste est un créneau qui, en fait, le contraint à aller dans cet angle de la défense de la civilisation face à cette vague migratoire. Rappelons tout de même que la France a accueilli à peu près 20 000 Syriens, 20 000 migrants au titre du droit d'asile, 20 000 sur à peu près 36 000 communes. On est très loin d'une vague.
Oui, bien sûr, oui.
Donc, quand le tract dit pour que la France reste la France, honnêtement, je crois pas que c'est moins d'un migrant, moins d'un demandeur d'asile par commune qui va changer la France. Que Laurent Wauquiez se rassure.
Aurélie Trouet.
Oui, mais moi je reviens sur l'histoire, enfin sur le fait que ça va que ça alimente encore la xénophobie, qui je pense est latente, de plus en plus forte en France. Et je le répète, notamment vis-à-vis des migrants, on a aujourd'hui quand même des groupuscules affinitaires d'extrême droite, néo-fascistes, qui ont de plus en plus pignon sur rue, qui agissent. Et d'ailleurs, le gouvernement là-dessus, je le vois pas vraiment apporter des réponses.
Gérard Collomb a condamné. Voilà,
en tout cas, voilà, Action française, etc., qui reprennent du galon. Et je pense que c'est un vrai problème aujourd'hui, cette montée en charge de la xénophobie et en même temps avec un gouvernement, je dis, qui sort une loi qui, à mon avis, vis-à-vis des migrants, est extrêmement dangereuse et piétine un certain nombre de droits internationaux. Et ça se trouve dans ce contexte-là, la sortie de Wauquiez. Donc, je suis d'accord, ça répond à un vrai besoin de protection des citoyens, mais ça n'est pas comme ça qu'on y répondra. On y répondra par une Europe solidaire, par une Europe sociale, par une Europe écologique, alors, et certainement pas par une Europe de rejet et xénophobe.
À chaque fois, c'est le, en fait, finalement, c'est le même argument, que ça soit Manuel Valls ou Gérard Collomb. Manuel Valls avait dit on accueille 60 000 migrants parce que sinon ça fait monter le Front National à l'époque. Et là, Gérard Collomb a dit, vous savez pourquoi on fait cette loi? Parce que regardez ce qui s'est passé en Allemagne avec la montée de l'AfD, donc qui est un parti d'extrême droite, 80 députés. C'est toujours cet argument-là qui est sorti par les gouvernants.
Oui, effectivement. Là où j'apporterai peut-être un petit bémol par rapport à ce que vous venez de dire, en France, la loi française, effectivement, la loi de Gérard Collomb durcit un petit peu les dispositifs. Enfin, à côté de ce qui se passe dans beaucoup de pays européens par rapport au droit d'asile et par rapport à la manière
dont on fait. Bien sûr, mais là, on voit quand même dossiers. Une durée de rétention plus longue. On voit tout de même.
Oui, effectivement. Et on a bien noté qu'effectivement, les associations étaient tout à fait opposées à la manière dont tout ça s'est fait.
Il y a d'autres dispositions plus favorables.
Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas des petits dispositifs techniques où on fait jouer de quelques jours les délais de rétention, des choses comme ça, qui vont permettre de venir à bout de la vague populiste en Europe. Et ce qui peut venir éventuellement à bout de la vague populiste en Europe, c'est aussi de retrouver une forme de croissance et un modèle économique plus inclusif, mais plus viable.
Ça, c'est la grande théorie macroniste, pour le coup, qui est de croire que... qui est de croire que si l'économie va... Tout va. Si la croissance revient, si l'emploi revient, tous les problèmes sont oubliés. Les problèmes ne seront pas oubliés. Ça ne seront pas oubliés.
Ça aidera.
Les problèmes d'identité, je reviens. Ils sont là, ils existent, et c'est pas de retrouver de l'emploi qui répondra à ces problèmes-là.
Alors, Jadzam,
je suis très attristé de ce que j'entends, parce que vous pouvez pas dire que le problème de l'Europe, c'est pas l'identité. Quand on sait tous les matins, on n'est pas en train de se dire quelle est mon identité européenne. Il y a des peurs face à ce qui se passe au Moyen-Orient. Et vous disiez tout à l'heure, les dirigeants choisissent en fonction des majorités et ou du contexte, il faut accueillir ou pas. Mais on est quand même face à des gens qui ont tout perdu, qui sont au bord de la mort, des enfants qui échappent à des situations qui sont totalement inacceptables. Et par rapport à ce que disait le tract pour que la France reste la France, justement, pour que la France restera France, il faut qu'elle accueille ces migrants, parce que la France, elle a un devoir. La France, elle s'est faite justement autour de ces valeurs-là. Donc moi, je dis à Laurent Wauquiez, mais vous vous trompez sur ce qu'est la France. Si pour vous la France, c'est ne pas accueillir, vous la méconnaissez totalement. Et la question identitaire, elle est en fait incluse dans ces questions sociales, dans ces questions de frontières, mais elle n'est pas au cœur. Je pense que le problème est économique et avec un écoulement sur ces autres sujets-là.
Désolé, voilà, regardez-vous. Vous savez, ici, on est des chefs de gare. Hein. Allez, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Tariq Ramadan interrogé pour la première fois par les juges d'instruction aujourd'hui. L'islamologue est auditionné dans le cadre des accusations de viol qui le visent. Il pourrait être mis en examen pour un troisième dossier. Tariq Ramadan est en détention provisoire depuis début février. Harvey Weinstein, lui, plaide non coupable. Le producteur déchu américain inculpé en mai dernier dans les premiers dossiers de viol et d'agression sexuelle comparaissait cet après-midi devant le tribunal de Manhattan. Il plaide non coupable de 3 chefs d'accusation. Au total, une centaine de femmes l'accusent de cas de harcèlement sexuel et jusqu'au viol. Les comptes de la Sécurité sociale sont quasiment à l'équilibre en 2018. La commission des comptes de la Sécu l'affirme. Le déficit global devrait se réduire fortement cette année à moins de 300 millions d'euros au lieu des 2,2 milliards inscrits en loi de finances grâce à la croissance. Mais le trou de la Sécu reste important, encore plus de 120 milliards d'euros à rembourser d'ici 2024. Au moins 11 morts, 9 blessés après l'explosion explosion d'une mine de fer en Chine. Le drame s'est produit cet après-midi dans la province de Liaoyang. Selon la télévision nationale chinoise, 25 personnes restent piégées à la suite de la déflagration à l'intérieur de cette mine. Et puis l'Allemand Pascal Ackermann s'impose lors de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné à Belleville dans le Rhône. Le maillot jaune de leader passe sur les épaules du Sud-Africain Daryl Impé.
France Info.
20h-21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, il nous reste très peu de temps d'une chose hein, qu'on développera dans le reste de la semaine. Si vous pensez qu'Emmanuel Macron est un homme lézard, que les Illuminati sont à l'origine des défaites françaises à Roland-Garros, que les chats soufflent à l'oreille de Vladimir Poutine, eh bien dépêchez-vous car dans quelques semaines, ça va être difficile de vous épanouir dans ce domaine. Jeudi, l'Assemblée nationale discutera de la future loi sur les fausses nouvelles annoncée par le président de la République en janvier dernier. Elle vise à permettre à la justice de faire cesser en référé la diffusion de fausses informations durant les périodes préélectorales et électorales pour des scrutins nationaux. Alors l'initiative dérange car certains craignent que les autorités, sous couvert de lutter contre les fake news, puissent bloquer la publication d'informations peut-être embarrassantes ou compromettantes pour le pouvoir, mais qui pourrait être vrai. L'opposition est vent debout et carrément accrochée aux mains hein, contre cette loi, des Républicains en passant par la France Insoumise, également le Rassemblement National. Tous parlent d'atteinte à la liberté. Alors le gouvernement fait énormément de pédagogie en disant que ça sera faux. Mais finalement, Jadza, pourquoi tant de critiques autour de cette loi? C'est vrai. Alors, en tant que journaliste, on sait déjà quand Emmanuel Macron a parlé de ça, alors de ses vœux à la presse, on s'est tous posé la question, mais il y a déjà une loi, en fait, hein, 1905. Une loi, finalement, vous comprenez, vous, pourquoi faire une loi en période électorale dessus?
Mais l'idée initiale est intéressante, qui est de dire que la loi, il faut que la loi puisse aujourd'hui avoir prise sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, notamment. Je parle de ce que je connais. Je crois que plus de 90% des jeunes s'informent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un vrai enjeu et l'idée ne me semblait pas si inintéressante. Ce qui est aujourd'hui, en revanche, sujet à questionnement, c'est toute la définition juridique, en fait, de ce qu'on va appeler une fake news. Et il y a le terme qui a été retenu par l'Assemblée, c'est allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables. Et c'est là que tout est, qu'il est question de débat, de nature à la rendre vraisemblable. Donc, effectivement, là où il y a, un vrai questionnement, c'est à partir de quand est-ce qu'on considère que c'est vérifiable ou pas? Qu'en est-il du secret des sources, du secret de la protection des journalistes?
C'est très long à vérifier par rapport à l'impact que peut avoir cette
Je lisais un dernier élément assez symptomatique. Par exemple, si cette loi avait été en œuvre en 1985, le dévoilement du scandale du Rainbow Warrior aurait été impossible. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et en fait, l'idée est intéressante. Pourquoi pas? Mais la concrétisation juridique pose problème et c'est tout le sujet, en fait.
Alors, Christophe Alix, c'est...
D'abord, le remède risque sans doute d'être pire que le mal. D'autre part, on voit bien que cette loi et la définition juridique qui en est donnée sera totalement inapplicable. On n'a aucune idée du type de jurisprudence que ça peut créer, etc. Mais enfin, ça ne va ne faire qu'ajouter de la confusion. En France, on a déjà un droit de l'information, de la presse qui est extrêmement développée. On n'avait absolument pas besoin d'un nouveau texte. C'est un texte de circonstance. C'est une loi, entre guillemets, presque d'émotion qu'a fait Emmanuel Macron.
Le fait de faire des lois sous...
Voilà, mais là, il a totalement fait une loi de circonstance, une loi d'émotion, pour réagir notamment avec tout ce qui s'est passé autour de Facebook.
Et puis lui-même
qui a été victime, des campagnes russes, Sputnik, etc. Donc on a même pu y voir une forme de préoccupation, disons, peut-être presque plus personnelle même que... voilà. Alors, mais bref, aujourd'hui, on est très très mal barré avec cette loi. Effectivement, les députés En Marche, on est seuls à la défendre. Et tous les spécialistes, il y a eu de colloques, de textes qui ont été publiés. Il y a un consensus total pour dire que c'est une très mauvaise idée et que finalement va sans doute aboutir à un dispositif qui sera sans aucun intérêt, inutilisable et sans véritable impact.
Alors, Aurélie Trouvé.
Ouais, moi je voudrais faire le lien avec une autre loi que je trouve tout à fait cohérente avec ce qui sort là, qui est la loi sur le secret des affaires. Qui va être votée le 21 juin prochain, qui est extrêmement grave et qui aboutit au même principe. En gros, au départ, une bonne intention, lutter contre le piratage entre entreprises, l'espionnage entre entreprises. In fine, qu'est-ce que ça va permettre? Eh bien, moyens de d'attaquer, et ça va offrir au juge la possibilité vraiment d'attaquer des journalistes, des lanceurs d'alerte, dès lors que eh bien ça portera préjudice à une entreprise. Donc l'entreprise pourra se retourner et dire ah ben tel employé l'a divulgué mon évasion fiscale massive, et ça va permettre de condamner beaucoup plus voilà le lanceur d'alerte ou le journaliste, et eux-mêmes d'ailleurs vont être dissuadés de le faire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça veut dire que par exemple Antoine Deltour, qui a dénoncé, qui a permis l'affaire du de lancer LuxLeaks, et donc qui a dénoncé l'évasion fiscale massive par le Luxembourg et des multinationales, aujourd'hui serait jugé par la justice française, alors, en tout cas demain avec cette loi, eh bien il pourra être condamné quasiment
Il faut absolument la dénoncer, s'il vous plaît, rapidement, parce que malheureusement on n'a plus trop de temps.
Non, je vois que pour une fois Libération et Le Figaro sont d'accord.
C'est formidable.
Donc, la loi, cette loi sur les fake news est totalement inutile.
On aura l'occasion.
C'est la judiciarisation de ce projet.
On aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci beaucoup Aurélie Trouvé d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci Jadzab. Albert Zinoula, du Figaro, demain, est-ce que vous l'avez en tête? Toujours pas. Non, je vous laisse encore y réfléchir un petit peu. Voilà, exactement. Christophe Alix, c'est une de Libération.
Handicap, le reniement de Macron.
Voilà, c'est sur la loi bioéthique, pardon.
La loi bioéthique, en effet, pour le Figaro. Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Equili. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour Tout est politique au programme ce soir.
Alors, nous allons ouvrir sur le gros coup de fatigue des députés à l'Assemblée nationale. Nous en avons quatre sur le plateau. Annie Genevard de Républicain, Valérie Rabault du Parti Socialiste, Thierry Solaire de La République En Marche et Sébastien Chenu du Rassemblement National. Il y aura d'autres sujets, bien sûr.
Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.